carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Je vous emmène aujourd'hui au domaine de Malagar, du côté de Bordeaux, c'est-à-dire dans la demeure girondine de l'écrivain François Mauriac. Vous écouterez dans un premier temps Jean-Claude Ragot, directeur du centre, et puis Pascal Delapasse, qui nous fait découvrir tous les recoins du site d'un grand homme de lettres. Monsieur Ragot, merci de nous recevoir. Vous êtes conservateur, le directeur du domaine Mauriac à Malagar. Qu'est-ce qui plaisait tant à Mauriac dans ce domaine ? Est-ce qu'il est venu y vivre longtemps ?
Oui, je pense que Mauriac était très attaché à la terre. Il était attaché à cette région et aussi au sud de la Gironde. Parce que vous savez qu'il a passé son enfance dans les Landes, dans le chalet d'enfance de Saint-Symphorien, qui a inspiré beaucoup de ses romans. Et ici, c'était plutôt le domaine de la maturité pour lui. C'est un homme dont la famille paternelle venait et des Landes et des vignes. Ici, nous sommes dans la partie viticole. C'est donc une propriété viticole dont il a hérité lorsque les partages de famille se sont faits. Et il a été très heureux de pouvoir ensuite être propriétaire lui-même, après son arrière-grand-père, son grand-père et son père, de ce domaine. Il y venait chaque année, à Pâques, pendant l'été, aux vendanges bien entendu, qu'il surveillait lui-même. Et il y a écrit peu d'œuvres romanesques, mais le Nœud de Vipère bien sûr, mais sinon une grande partie de ses articles de presse, parce qu'il aimait beaucoup, vous savez, il écrivait sur ses genoux régulièrement, il aimait se mettre, il écrivait peu ses articles à table, il se mettait au coin de la cheminée quand il faisait trop frais, ou sur son banc, sur la terrasse, sur le kiosque de la terrasse, d'où d'ailleurs il voyait au loin les forêts de pins des Landes girondines qu'il appréciait tant, et donc il aimait cette tranquillité qui lui permettait de réfléchir, et de réfléchir dans ce style bien personnel de son écriture journalistique, qui était de lier en permanence l'individuel et l'universel. Moi, je suis très frappé dans ses bloc-notes de sa capacité à parler de lui, de son domaine, des lilas de Malagar, et puis, en partant de ce qu'il vit quotidiennement, de pouvoir faire un lien avec ce qui peut se passer au niveau absolument mondial, et finalement avoir une analyse qui est une analyse très personnelle et qui en même temps a valeur universelle. Et moi je trouve que, il parle lui-même d'ailleurs, de son désir de faire en permanence le lien entre le singulier et l'universel, et je pense que c'est une des grandes caractéristiques de son écriture journalistique.
Comment est structuré le domaine ? Parce qu'il est très grand, il y a des allées, il y a des jardins, il y a une maison, il y a des écuries. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ?
Alors, c'est un domaine viticole avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de maison de maître. On dit un château ici, mais enfin, c'est un château très modeste qui est encadré par deux chais. Alors l'un qui servait au vin rouge et l'autre au vin blanc, le chai du rouge, le chai du blanc, qui détermine une très jolie cour avec un très beau tilleul dont l'ombre est très agréable et avec une vue sur l'ensemble de la région. Une belle allée des Charmilles qui donne sur une terrasse qui donne sur la vallée de la Garonne et d'où on voit les Landes vers le sud et au nord une vue sur la vigne. Alors à côté de cette maison, les pièces à vivre, comme on dirait aujourd'hui, au rez-de-chaussée, la cuisine, la salle à manger, le vestibule, le salon, le bureau de François Mauriac. Vous avez les chambres au premier étage, plus deux chambres au deuxième étage. Et un grand bâtiment qui abritait auparavant les communs, qui a été réaménagé pour pouvoir accueillir les bureaux, le centre de documentation, la bibliothèque du centre François Mauriac. Le parc fait à peu près 5 hectares. Un verger, une allée des rosiers, un potager. Tout cela a fait l'objet d'une donation par les quatre enfants Mauriac en 85 au conseil régional d'Aquitaine, en l'occurrence à Jacques Chaban-Delmas, qui était le président à l'époque. Et par contre, les enfants avaient conservé pendant quelques années la vigne. Il y avait 14 hectares de vigne autour du domaine qui ont été vendus un peu plus tard et qui sont aujourd'hui exploités par un viticulteur. Qui peut proposer un château Malagar dont il a conservé l'appellation avec sur l'étiquette ancienne propriété de François Mauriac. Alors c'est du premier côte de Bordeaux qui est d'ailleurs tout à fait agréable. Et paraît-il meilleur que celui qui était fait à l'époque de François Mauriac parce qu'il trouvait que son vin rouge n'était pas sensationnel.
Pour terminer, Monsieur Ragot, que devient le domaine aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur la vie que vous entretenez autour de ce domaine, les activités ?
Alors, le conseil régional qui en est propriétaire a demandé à notre centre François Mauriac, qui est chargé de conserver le lieu et aussi de l'animer, d'essayer de trouver un bon équilibre entre lieu de mémoire et lieu de culture vivante. C'est-à-dire que, à la fois, ce domaine n'a de sens que parce que François Mauriac y a vécu. Donc on essaye de conserver, plus que son souvenir, sa présence, c'est-à-dire une sorte de climat d'intimité dans lequel on pourrait penser qu'il va surgir au détour d'une allée. Donc nous avons conservé l'ensemble de ses meubles, de son mobilier, de l'agencement de ses pièces, de ses bibelots, de ses livres. Tout ça étant bien entendu classé monument historique. Mais en même temps, il ne s'agit pas de transformer ce domaine en une sorte de mausolée. On tient absolument à ce que, comme à son époque, ce lieu puisse participer à la compréhension de la société contemporaine. Donc l'idée, c'est de proposer au public un certain nombre d'activités, au-delà de l'œuvre et du souvenir de François Mauriac, avec, par exemple, aujourd'hui, demain, des vendanges de Malagar, qui sont en fait une sorte de grande rencontre où nous recevons 400, 500 personnes qui viennent écouter et débattre avec des intellectuels, journalistes, universitaires, historiens, sur un thème, dans la perspective d'essayer de mieux décrypter la société d'aujourd'hui. Alors, nous accueillons aussi des résidences d'artistes, d'auteurs de théâtre. Nous préparons un rendez-vous sur le Liban où nous aurons à la fois des universitaires et aussi des artistes, musiciens et poètes qui viendront nous faire quelques performances ici. Comment ce lieu peut rester un lieu d'inspiration où des artistes peuvent venir se ressourcer et en même temps comment proposer au public un lieu qui reste vivant ? Un lieu de mémoire respectueux de l'œuvre et du souvenir de François Mauriac, un lieu de culture vivante qui permet au public d'essayer de mieux comprendre son époque.
Non, c'est dans un des blocs notes, il raconte qu'un printemps, il était arrivé ici à Malagar, il avait 80 ans, et à peine arrivé, en fait, on le rappelle pour une élection à l'Académie française, et il ne s'y était pas rendu parce qu'il attendait que les roses s'ouvrent, et il disait qu'évidemment, à 80 ans, on savait ce qui était important dans la vie.
Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'on voit de ce côté-là ? Quel est ce côté de la maison de Mauriac ?
Alors, on voit là le côté nord de Malagar.
Qui est le côté le plus connu d'ailleurs, qu'on voit sur les photos d'une manière générale.
Oui, les photos, les cartes postales. Et c'est vrai que la maison a une allure assez élégante, imposante, hein, malgré donc cet étage que François Mauriac regrettait, qui avait été rajouté par son grand-père. Hein, et il disait « ma maison a été coiffée d'un lourd chapeau, déguisée en manoir ». Et il regrettait ce côté un petit peu prétentieux, hein, qui enlève en fait sa simplicité à la maison.
Puisqu'en fait la maison à l'origine se constitue comment ?
À l'origine il y avait donc cette partie de la maison tout en longueur, hein, cette chartreuse girondine. Et puis elle est encadrée de part et d'autre par d'un côté le chai du vin rouge et de l'autre côté le chai du vin blanc. En fait il y a toujours eu des vignes ici à Malagar, du temps des moines. D'ailleurs avec des moines il y a toujours des vignes. Et puis, il y a également tout ce corps de bâtiment qui est très ancien. Et de part et d'autre, ces auvents qui sont magnifiques.
Voilà. Allons les voir.
C'est très joli avec cette charpente. Tout ça, c'est magnifique.
Donc, quelle est cette partie sur la gauche ?
Alors, sur la gauche, ce sont les dépendances. En haut, vous avez la grange, hein, qui a été aménagée donc, en 97, qui a été aménagée et qui sont devenus des bureaux. Et en bas, il y a les tables et les écuries qui n'ont pas été touchées à la demande des enfants de François Mauriac. Ils ont voulu qu'on préserve ces deux endroits, et bien, tout simplement parce que François Mauriac y était très attaché. Hein.
Quel est l'endroit où Mauriac aimait se recueillir dans ce domaine ?
Alors, il y a plusieurs endroits, un petit peu en fonction des états d'âme, hein, mais je crois que l'endroit le plus agréable pour lui, c'était quand même la terrasse, hein, avec cette vue sur la vallée de la Garonne, ce qu'il appelait les longs pays muets. Et il passait beaucoup de temps là, surtout en fin de matinée. Son fils Jean raconte qu'il descendait vers la terrasse, il emmenait des journaux, des livres, et il s'installait là, il contemplait l'horizon. Et c'était pour lui des moments extraordinaires. Et quand il avait des invités un petit peu célèbres qui venaient lui rendre visite, il les emmenait toujours à la terrasse.
Quels sont les invités célèbres qui sont passés par Malagar ?
Alors, il y en a eu plusieurs, mais d'abord, il y en a un qu'il a toujours souhaité voir venir ici et qui n'a jamais pu venir, c'est Francis Jammes. Et quand il a eu Malagar, la première chose qu'il a fait, c'est de lui envoyer une petite lettre en lui demandant de venir lui rendre visite ici à Malagar, mais Francis Jammes n'a jamais fait ce voyage et Mais enfin, c'est amusant de voir que ça a été un de ses réflexes en ayant cette propriété. Alors, il y a André Gide qui est venu séjourner un long moment ici à Malagar. Et Claude a raconté d'ailleurs en long et en large ce séjour de Gide ici à Malagar, puisque Claude était là avec son père. Et justement, il raconte que le soir, ils descendaient ensemble à la terrasse, hein, c'était en été. Et son père et Gide se donnaient la réplique en récitant des poèmes de Francis Jammes, des poèmes de leur enfance. Et Claude était assez émerveillé, hein, de voir ces deux grands écrivains se donner la réplique. Ça devait être des moments extraordinaires. Alors, il y a un jeune écrivain qui est venu aussi ici avec, dans la poche, une édition originale des... Le chemin de la mer, ce roman de François Mauriac, qu'il aimait particulièrement, c'est Philippe Solers. Il était venu lui faire dédicacer son livre et François Mauriac l'a entraîné à la terrasse aussi.
Cette terrasse est entourée d'allées, vous les appelez comment ces allées?
Les Charmilles, ce sont les allées de charme. Voilà. Il y a la petite allée des rosiers aussi qui est très importante, surtout dans le roman Le Nœud de Vipère, cette allée que le héros et sa femme descendent en se tenant le bras, et il y a toute une symbolique. Je voulais vous dire que ça ne m'étonne pas qu'il se soit beaucoup attaché à Malagar, parce que au fond, Malagar correspond un petit peu à ce qu'il était. C'est-à-dire, comme c'est quelqu'un qui est tout en contraste, hein, qui est toujours étonnant, eh bien, Malagar, c'est pareil. Vous avez cette grande ouverture, vous voyez, sur la plaine, hein, cet horizon qui n'en finit pas, et en même temps, vous avez des coins très intimes, très un petit peu confinés. Et je trouve que... Enfin, je comprends pourquoi il a tellement aimé cet endroit tel qu'il était. Hein. Il avait besoin de cette indépendance d'esprit, cette indépendance de vie. Et François Mauriac disait « Je ne serai pas arrivé tant que je ne serai pas sur le seuil d'une certaine cuisine ». Voilà, elle est modeste, hein, c'est la petite cuisine gasconne typique. Alors, vous avez des très jolis carreaux de Gironde, bien abîmés évidemment. Et ce petit meuble, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un potager. On mettait là les plats à mijoter. Alors, on raconte que François Mauriac avait cette habitude en descendant de sa chambre, il passait par l'escalier et faisait un petit détour par la cuisine, soulevait les couvercles des casseroles pour sentir les bonnes odeurs de cuisine. Il était très sensible aux odeurs et aux parfums, et on retrouve ça dans les romans. Il y a toujours l'évocation des parfums des landes, de la bruyère, de l'herbe. En fait, dans ses romans, tout cet univers sensible est toujours très complice des états d'âme. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une unité extraordinaire dans ses romans et que ses ambiances sont si fortes. Alors ici, nous sommes dans la salle à manger. François Mauriac disait qu'elle baignait dans des couleurs d'or et de miel. Et c'est vrai qu'en début d'après-midi, quand il y a du soleil, elle est éblouissante. Et le grand-père avait fait faire cette salle à manger. En fait, il ne vivait pas à Malagar, mais il recevait à Malagar. Hein. Et il y a ces grands placards, vous voyez, emboîtés. Encore des restes de service de table. Hein. Alors, de part et d'autre de ces grands placards, cette porte donne accès à l'escalier qui permet d'aller dans les chambres, et celle-ci donc à la cuisine. Et tout autour, ces boiseries en trompe-l'œil. Hein. Le mobilier, c'est un mobilier Napoléon III qui date de la même époque et qui s'accorde très bien à cette pièce. Voyez, on retrouve même la même petite, je dirais, le même petit dessin qui a été reproduit sur les moulures des placards et sur les murs. Ce vaisselier, c'est ce qu'on appelle un Saint-Hubert, et ça, une table de venaison. Quand on soulève, il y a une plaque de marbre, c'était pour découper le gibier. Alors, il y a des meubles de chasse, mais François Mauriac n'était absolument pas chasseur. Hein. Vous verrez les seules photos qu'on voit de lui à la chasse. Il est dans une palombière en train de lire un livre. D'ailleurs, il disait « Je ne suis pas gascon puisque je ne chasse pas ». Par contre, quand il allait à la chasse avec ses frères, ses cousins, ce qu'il aimait beaucoup faire, c'était les observer, voir la passion qu'ils avaient de la chasse. Et dans les mémoires intérieures, il y a un passage sur la chasse à la palombe qui est absolument merveilleux. Oui, ce qu'il y a d'assez, je dirais, un petit peu plus touchant dans cette entrée, c'est qu'en fait, ce sont des meubles et des gravures, des objets que François Mauriac et sa femme ont choisis eux-mêmes et achetés chez les antiquaires. Autant dans les autres pièces, ce sont plutôt des meubles de famille qui sont arrivés ici quand il y a eu la vente de domaines, des partages des héritages. Autant ici, ce sont plutôt des choses qu'ils ont choisies eux-mêmes, qu'ils ont achetées chez les antiquaires. Et la plupart des gravures sont très représentatives du XVIIIe siècle et celles de Bordeaux, du Bordeaux du XVIIIe siècle. Hein. Alors, sauf cette grande gravure, vous voyez, du port de Bordeaux, elle a son original au musée de la Marine à Paris et elle a été offerte par Gabriel Delaunay qui était l'ancien préfet de la Gironde. Et il avait accueilli François Mauriac au Grand Théâtre de Bordeaux pour célébrer ses 80 ans. Et alors à cette occasion d'ailleurs, François Mauriac disait avoir célébré sa réconciliation avec les Bordelais qu'il a tellement épinglé dans ses romans. Quand il a publié le roman Préséance, sa mère lui a envoyé un petit mot en lui disant « Maintenant, c'est sûr, tu n'auras jamais ta statue à Bordeaux. » Le roman était tellement satirique sur la société bordelaise. Et il a eu quand même sa statue puisqu'elle est au Jardin public de Bordeaux. Et il y a une copie ici de cette statue qui est dans le Chais du Rouge quand on entre. Juste dans la salle d'exposition, et bien, il y a ce fameux buste de Zadkine qui est une œuvre d'art extraordinaire.
Alors là, présent, nous sommes dans le salon.
Voilà, on est dans le salon et c'est vrai que c'est dans cette pièce que François Mauriac se tenait le plus souvent. D'une part parce qu'il écrivait ici, vous voyez sur cette table qui est installée donc au nord avec cette vue hein, sur le versant du pays de l'Entre-deux-Mers et c'est là qu'il s'installait pour écrire. Il faut savoir que la plupart des romans ont été écrits ici à Malagar. À Paris, il menait une vie très mondaine, il était très sollicité, il adorait d'ailleurs cette vie parisienne, mais c'était plutôt l'actualité qui l'intéressait. Et en revenant à Malagar, eh bien, il retrouvait ses souvenirs et donc l'inspiration romanesque. Donc il profitait de ce temps où il était à Malagar pour écrire ses romans et il s'installait plus particulièrement dans ce salon pour écrire jusqu'en 38. Après, en 38, il y aura un petit cabinet de travail et il laissera donc cette pièce au reste de la famille parce que quand il écrivait, interdiction de rentrer dans ce salon, hein. Ni même pour les enfants de faire du bruit autour de la maison pour pas le déranger. Donc l'atmosphère, je crois, à Malagar, l'été, en vacances, était un petit peu austère du fait qu'il voulait prendre ce temps de vacances pour écrire, justement.
Nous sommes dans le bureau de François Mauriac.
Voilà, c'est un bureau et qui a été pris sur le Chais du Vin Blanc et sur le Cuvier. C'est pour ça, vous voyez, qu'on descend trois petites marches. Et que, par contre, il n'y a plus qu'une ouverture au nord, parce que dans le prolongement, il y a le Chais du Vin Blanc et le Cuvier. Et ici, François Mauriac a rassemblé, en fait, tout ce qui lui venait, surtout de sa famille très proche. Il disait « Ici, tout me vient de mes morts ». Il y a par exemple cette glace, voyez, vénitienne assez imposante et ce baromètre Louis XVI qui était dans l'appartement de sa mère à Bordeaux. Alors il y tenait beaucoup parce qu'il était très attaché à sa mère, il avait pour elle une grande tendresse. Il faut lire le Mystère Frontenac, c'est son roman le plus autobiographique. D'ailleurs, il disait que pour lui, c'était son roman le plus émouvant. Et dans ce roman, justement, il donne un portrait très vrai de sa mère et surtout, il révèle cette atmosphère familiale assez chaleureuse et confinée dans laquelle il a grandi. C'est un roman qu'il a écrit à un moment particulier de sa vie. Vous savez qu'il a eu une maladie importante, un cancer du larynx. Et au moment de sa maladie, sa famille l'a beaucoup entouré. Alors, il a été très touché. Et pour les remercier, il a écrit ce merveilleux roman, Le Mystère Frontenac. C'est pour ça que c'est un roman qui est un petit peu à part.
Donc là, nous sommes toujours dans l'atelier. Il y a une très grande cheminée avec un portrait de Paul Valéry.
Alors, en fait, c'est une photo de Paul Valéry. Il avait beaucoup d'amitié pour Paul Valéry, qu'il a rencontré dans les salons littéraires. Et Paul Valéry a parrainé François Mauriac à son entrée à l'Académie française avec Henri Bordeaux. D'ailleurs, vous verrez dans la salle d'exposition aussi, il y a des lettres de Paul Valéry qu'il échangeait avec Jeanne, la femme de François Mauriac. Et on sent que François Mauriac avait une belle amitié pour Paul Valéry. Quand il a écrit le roman le Baiser aux lépreux, il parle de ce roman en disant que c'était le premier roman dont il n'a pas à rougir. Et il écrit un petit mot à Jeanne, sa femme, en lui disant « Même Valéry dit que c'est bien ». Je trouve l'anecdote assez touchante.
C'était donc Jean-Claude Rago, directeur du Centre François Mauriac, ainsi que Pascal Delapasse, guide au domaine de Malagar, qui nous faisait visiter tous les recoins du site du Grand Homme de Lettres.